Bonjour et bon vendredi 27 octobre 2017. C'est Hélène Denis, de bonne humeur, comme vous pouvez l'entendre, j'espère bien, avec le sourire. C'est Mathieu là, qui me fait rire. C'est un vrai clown, ce garçon. Bonjour, Mathieu.
Excusez-moi, oui, bonjour.
Vous allez bien?
Je vais très bien.
Oui, Mathieu qui dansait à la régie.
Tout à fait.
Alors, Mathieu, les éphémérides, on vous écoute.
27 octobre. C'est aujourd'hui la journée européenne de la dépression, c'est la journée mondiale de l'ergothérapie, c'est la journée mondiale du patrimoine audiovisuel.
Ah, hier, il n'y avait pas de journée.
Non, effectivement.
Puis aujourd'hui, il y en a trois.
Ouais, ça arrive des fois.
Audiovisuel, c'est nous, ça?
Oui, c'est du patrimoine, en fait, audiovisuel. C'est beau, comme terme. 1492, l'explorateur Christophe Colomb arrive à Cuba 2 semaines après être passé aux Bahamas. 1856, un premier train relie Montréal et Toronto. On remonte à 1900, toujours un 27 octobre, une première ligne de métro est inaugurée à New York, tandis que Londres se vante d'avoir le plus vieux métro du monde, qui date, lui, de 1863. Boston l'a eu en 1897, et c'est tout. 1922, la marche sur Rome des bandes armées de Benito Mussolini, dite chemise noire, force la démission du gouvernement italien. Ça, c'était en 22. 1947, Lucien Borne est élu maire de Québec pour un 5e mandat. 1955, un incendie ravage le chantier maritime Davy de Lauzon. En Estrie, en 1977, Charles Marion, dirigeant d'une caisse populaire, est libéré après avoir été détenu en otage pendant 82 jours. 1979, toujours un 27 octobre, le premier ministre René Lévesque inaugure la centrale hydroélectrique de LG2. En 91, en Pologne, ce sont les premières élections législatives libres depuis 1936. En 1995, cette fois, une foule de 60 000 personnes s'assemble à Montréal, incitant les Québécois à voter non au référendum du 30. Plusieurs manifestants hors Québec, où la loi, doit-on le dire, du financement électoral ne s'applique pas, avaient eu leur voyage payé. 1998, le groupe Hollinger, lance le quotidien National Post. En 2000, à Vancouver, deux hommes sont accusés d'avoir fait sauter un avion d'Air India près de l'Irlande en 1985, tuant ainsi 329 personnes. Et à titre de sage-femme, Marie-Paul Lantier pratique le premier accouchement au Québec à l'hôpital de l'arrondissement La Salle à Montréal.
C'était en quelle année?
En 2004.
Ah bon?
Et des émeutes en 2005 de plusieurs centaines de jeunes éclatent en France après l'électrocution mortelle de 2 adolescents qui s'étaient réfugiés dans un transformateur pour échapper à la police. Ce drame déclenchera 24 nuits de violence. Et c'est tout pour ce que j'avais à dire.
Il n'y a pas d'anniversaire.
Oui, tout à fait. Ben oui, c'était dans le bas de ma page, mais comme je remontais. Le compositeur violoncelliste Niccolo Paganini est né un 27 octobre en 1782. Le président américain Theodore Roosevelt en 1858. Gilles Vigneault, vous avez bien fait de me le faire,
oui.
En 1928, et Roberto Benigni, l'acteur et le cinéaste italien, est né, lui, en 1962.
La vita è bella.
Exactement.
Il a donc 55 ans, et M. Vigneault va avoir 90 ans l'an prochain.
On va en faire jouer.
Oui, hein.
Pour se faire plaisir.
Merci. À la une de la presse aujourd'hui, la SQ perquisitionne au QG, quartier général du SPVM, le chef de cabinet du directeur Philippe Pichet, Imad Sawaya, serait visé par l'opération menée hier soir, a appris la presse. Élection municipale, entrevue éditoriale, Plante promet d'être la mairesse de la mobilité. Exclusif, fuite de l'enquête de l'UPAC, la succession au CA de la Caisse est chamboulée. Prix Judith Jasmin, la presse nommée 8 fois. Modernisation de l'île Sainte-Hélène, exclusif à la presse, des investissements qui favorisent le groupe CH. Daniel Renault, dans la presse d'aujourd'hui, la SQ perquisitionne au QG du SPVM les enquêteurs de l'équipe mixte formée à la suite des allégations de fabrication de preuves à la section des affaires internes et des enquêtes spéciales du service de police de la ville de Montréal. Ont perquisitionné hier soir au quartier général de la police de Montréal, rue Saint-Urbain, a appris la presse. Selon nos informations, cette perquisition serait liée à des informations voulant que le chef de cabinet du directeur Philippe Pichet, Imad Sawaya, ait, durant une assez longue période, réclamé des primes normalement consenties pour une fonction supérieure, de même que des heures supplémentaires alors qu'il n'y aurait pas eu droit. Il y a quelques mois, la presse avait questionné M. Sawaya sur ces allégations. Ce dernier, qui se trouvait en compagnie de l'ancien numéro 2 du SPVM, le directeur adjoint Didier de Ramon, s'était défendu, lettre à l'appui. Il avait notamment exhibé des missives de la Ville de Montréal affirmant que les sommes versées en trop sur ses payes étaient une erreur et avait déclaré avoir remboursé la totalité des sommes perçues en trop. Mais il y a quelques semaines, un autre cadre du SPVM a dénoncé cette situation et rencontré les enquêteurs de l'équipe mixte de la Sûreté du Québec hier. Ceux-ci étaient à la recherche de documents leur permettant d'étoffer ces allégations. Note au lecteur, un mot de l'éditeur adjoint Éric Trottier. Cher lecteur, nous vivons ces derniers jours une situation sans précédent. Depuis la publication de notre dossier sur les inconduites sexuelles reprochées à Éric Salvaille, nos journalistes reçoivent chaque jour des dizaines de courriels, d'appels téléphoniques, de témoignages troublants. Des gens qui souhaitent dénoncer du harcèlement, des agressions, qui nous racontent leur histoire, nous font part de leur intimité, leur souffrance. Nous tenons aujourd'hui à vous assurer que nous prenons chacun de ces témoignages, chacune de ces confidences au sérieux. Une dizaine de journalistes enquêtent sur ces histoires avec patience et minutie, en respectant notre devoir de vérification, en s'assurant de corroborer les témoignages, de confirmer l'information. Nous n'avons pas les pouvoirs de la police, mais nous devons néanmoins mettre toutes nos énergies à nous assurer de la véracité des informations que nous recueillons avant de les publier. L'enquête sur Marc Bibeault par l'UPAC et sa divulgation dans les médias n'ont pas eu des répercussions qu'à l'Assemblée nationale. Elles ont aussi fait des vagues jusqu'à la haute direction de la Caisse de dépôt et placement, a appris la presse. Le ressac a emporté l'administratrice Maryse Bertrand, pressentie pour être la prochaine présidente du conseil d'administration. Cette avocate réputée a quitté le conseil le 2 juin dernier, moins de 5 mois après être entrée en poste. Selon nos sources, la gestionnaire n'est pas une des parties à l'enquête de l'unité permanente. La gestionnaire n'est pas une des parties à l'enquête de l'unité permanente anticorruption, pas plus que la Caisse de dépôt. Son départ s'explique plutôt par le travail de son mari, William Brock. L'avocat de la firme Davis a le mandat de défendre Marc Bibeault, ex-argentier du Parti libéral du Québec. À la fin avril et au début de mai, l'enquête de l'UPAC sur Marc Bibeault a provoqué une tempête médiatique après la publication de certains détails dans les médias. Cette enquête porte sur les liens entre le financement politique et l'attribution de contrats. William Brock a alors été cité plusieurs fois dans les médias. Mercredi, en lien avec les fuites au sujet de l'enquête, l'UPAC a fait des perquisitions dans certaines résidences, dont celle du député libéral de Chomedey-Guy Ouellette. Le printemps dernier, dans les semaines qui ont suivi, Maryse Bertrand a expliqué à des sources proches de la Caisse que la médiatisation du travail de son mari pouvait mettre l'institution dans une situation politiquement délicate. Elle a quitté le conseil parce que l'institution aurait pu, par ses liens, être injustement éclaboussée selon nos informations. Jointe par courriel, Maryse Bertrand n'a pas précisé les raisons de son départ. Sachez toutefois que je n'ai que du respect pour l'organisation, son conseil et ses dirigeants, et je reste en excellent terme avec eux, a dit Maryse Bertrand par courriel. Je vais être la mairesse de la mobilité, affirme Plante. Expansion du réseau de métro, augmentation du nombre d'autobus en circulation, mais pas de péage sur les ponts pour décourager les automobilistes d'entrer dans l'île. À l'heure où les Montréalais se plaignent de la congestion tant sur les routes que dans les transports en commun, Valérie Plante s'engage à faire des transports la priorité de son premier mandat s'il est élu le 5 novembre. Je veux être la mairesse de la mobilité. Pour moi, la mobilité des Montréalais, c'est fondamental pour le développement économique, le développement social, a-t-elle déclaré en entrevue éditoriale à la presse. Un vaccin utile malgré une efficacité variable. La campagne de la vaccination contre la grippe saisonnière débute le 1er novembre. Le Dr Yves Jalbert, directeur à la Direction générale adjointe de la protection de la santé publique, invite la population à se faire immuniser, même si le vaccin est d'une efficacité variable. Alors, c'est Caroline Touzin qui pose des questions. Le Québec se dirige-t-il vers une saison de la grippe sévère cette année? Réponse, aucun indicateur ne nous permet d'être certain de ce que va être la saison de la grippe avant qu'on y soit vraiment. L'hémisphère sud a connu une saison modérément sévère, mais ça n'a pas été une saison extraordinaire non plus. L'Australie a connu une prédominance du type A, entre parenthèses H3N2, qui crée effectivement toujours plus de problèmes que la souche qui a circulé ces dernières années, H1N1. C'est un indicateur de ce qu'on pourrait vivre dans l'hémisphère nord, mais il n'y a pas de corrélation directe. Au fait, le vaccin n'a pas bien fonctionné en Australie. À quoi s'attendre ici? Au Québec, l'an dernier, on a eu différents types de H3N2. L'efficacité du vaccin était donc variable d'une personne à l'autre selon le type contracté. Malgré tout, vous invitez la population à se faire immuniser. Oui, le Québec offre la vaccination gratuite aux personnes à risque, les personnes âgées de plus de 60 ans, les femmes enceintes, les malades chroniques, les enfants de 6 à 23 mois, leur entourage et les travailleurs de la santé. C'est important de rappeler que la campagne vise à réduire les complications, y compris les morts liées à la grippe. On a quand même un outil qui a une efficacité certaine, alors on invite les gens à se présenter en grand nombre là où le vaccin est offert. Le maire de Nicodère s'est prononcé pour une redevance sur les boissons sucrées hier midi dans le cadre de la campagne pour sa réélection. Il a pris l'engagement d'envisager la mise en place d'une telle taxe dans un prochain mandat. Les fonds seraient dirigés vers des programmes destinés aux enfants. « Moi, personnellement, je suis en accord », a-t-il dit en conférence de presse au Parc Angrignon dans l'arrondissement du Sud-Ouest. « C'est un débat qu'il est important de faire. C'est une option de revenu. » Le maire n'a pas voulu citer de pourcentage, mais a confirmé qu'un taux de 5 % était possible. Il a affirmé que la taxe pourrait être récoltée auprès des commerçants qui vendent de telles boissons, mais que les détails seraient déterminés après les travaux d'un comité de consultation. La Commission sur les soins de fin de vie conclut que dans la très grande majorité des cas, 92 % l'aide médicale à mourir a été administrée conformément aux critères énoncés dans la loi, selon le rapport de la Commission déposé à l'Assemblée nationale hier. En tout, 638 personnes ont eu recours à l'aide médicale à mourir au Québec en 2016-2017. Il s'agit d'une hausse notable par rapport au dernier bilan officiel, alors que 167 patients y avaient eu recours durant les 6 premiers mois de l'entrée en vigueur de la loi québécoise.
Un jour je ferai mon grand cerf-volant, un côté rouge, un côté blanc. Un jour je ferai mon grand cerf-volant, un côté rouge, un côté blanc, un côté tendre. Un jour je ferai mon grand cerf-volant, j'y ferai monter vos 100 000 enfants. Ils vont m'entendre, je les vois venir du soleil levant. Puis j'attellerai les chevaux du vent, un cheval rouge, un cheval blanc. Puis j'attellerai les chevaux du vent, un cheval rouge, un cheval blanc, un cheval pille. Puis j'attellerai les chevaux du vent, et nous irons voir tous les océans. s'ils sont en vie, si les océans sont toujours vivants. Par-dessus les bois, par-dessus les champs, un oiseau rouge, un oiseau blanc. Par-dessus les bois, par-dessus les champs, un oiseau rouge, un oiseau blanc, un oiseau lyre. Par-dessus les bois, par-dessus les champs, qui nous mènera chez le mal méchant pour le détruire. Pompe de silence et couteau d'argent. Nous mettrons le mal à feu et à sang, un soleil rouge, un soleil blanc. Nous mettrons le mal à feu et à sang, un soleil rouge, un soleil blanc, un soleil sombre. Nous mettrons le mal à feu et à sang, un nuage monte, un autre descend, un jour sans ombre, puis nous raserons la ville en passant. Quand nous reviendrons le cœur triomphant, un côté rouge, un côté blanc. Quand nous reviendrons le cœur triomphant, un côté rouge, un côté blanc, un côté homme. Quand nous reviendrons le cœur triomphant, alors vous direz, ce sont nos enfants. Quel est cet homme qui les a menés loin de leurs parents? Je remonterai sur mon cerf-volant, un matin rouge, un matin blanc. Je remonterai sur mon cerf-volant, un matin rouge, un matin blanc, un matin blême. Je remonterai sur mon cerf-volant et vous laisserez vos 100 000 enfants chargés d'eux-mêmes pour jeter les dés dans la main du temps. Pour jeter les dés dans la main du temps.
Joyeux anniversaire, Monsieur Vigneault, c'était donc sa chanson Le Grand Cerf-Volant.
En une du devoir d'aujourd'hui, immigration, les travailleurs qualifiés sont plus nombreux que les autres catégories d'immigrants à connaître le français à leur arrivée au Québec. Le Québec peine à attirer des francophones. En 2017, 42 % des immigrants parlaient français à leur arrivée contre 62 % 5 ans plus tôt. Inconduite sexuelle, Michel Venn, mise en cause par 3 femmes. Halloween, l'horreur dans toute sa splendeur. Le cinéaste John Carpenter connaît une popularité renouvelée grâce à sa musique. La voix toujours actuelle d'un héritage millénaire, le 14e Festival interculturel du Conte de Montréal. Catalogne, la guerre des nerfs se poursuit. Violette siégera comme indépendant. Et Zeitgeist, la chronique de José Blanchette intitulée « De retour après la pause ». Trois femmes racontent au devoir avoir été victimes d'inconduite sexuelle de la part de Michel Venn, le fondateur de l'Institut du Nouveau Monde, INM. Jeudi, l'auteur Léa Clermont-Dion a publié sur sa page Facebook un message dans lequel elle dit avoir été agressée sexuellement en 2008 par M. Venn alors qu'elle était mineure, 17 ans, et qu'il était son patron. En entrevue avec le devoir, la femme de 26 ans a expliqué faire cette sortie dans la foulée du mouvement « Moi aussi ». Puisqu'elle a porté plainte à la police pour agression sexuelle, Mme Clermont-Dion n'a pas souhaité divulguer les détails entourant ces allégations. Une autre employée de l'INM rapporte que lors d'une soirée avec d'autres collègues en 2008, elle a été victime d'attouchements de la part de M. Venn. Nous étions dans un pub à l'étranger et nous fêtions entre collègues la réussite de notre mission. Pour moi, c'était dans le cadre du travail, mentionne la femme. Mira Naomi Bérubé, qui était agente de mobilisation, affirme également avoir été victime d'inconduite de la part de M. Venn en 2012. Lors d'une fête pour clore l'école d'été, qui regroupait les employés de l'INM, la jeune femme qui avait beaucoup bu a été suivie par M. Venn lorsqu'elle a décidé de partir. Il a clairement profité du fait que j'étais complètement saoule pour me ramener chez moi en taxi. Il me disait qu'il me trouvait belle, qu'il m'avait regardée tout l'été. Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais j'ai eu la présence d'esprit de demander au chauffeur de me débarquer à quelques rues de chez moi pour qu'il ne sache pas où j'habite. J'ai bien fait parce qu'il était insistant et essayait de m'embrasser. Quelques heures après avoir pris connaissance de la publication de Léa Clermont-Dion, M. Venn a nié ses allégations sur sa page Facebook. Il a annoncé dans la foulée suspendre ses activités professionnelles. Aucune accusation n'a été déposée contre lui. La police doit mener son enquête. Et à propos de la Catalogne, il y a une mise à jour. Mathieu, est-ce que vous pouvez nous la lire, s'il vous plaît?
Oui, sur le site de la presse, mise à jour à 10h18, donc la Catalogne déclare son indépendance.
Merci. Le Québec a de plus en plus de difficultés à attirer des immigrants francophones. En 5 ans, leur proportion a baissé radicalement, passant de 62 à 42 % et le ministère de l'Immigration ne pense pas pouvoir renverser la tendance à court terme. Ainsi, le ministère s'attend à ce que la part de francophones augmente à peine en 2018. C'est l'équivalent d'environ 21 420 personnes sur l'ensemble des immigrants attendus l'an prochain au Québec. Ces données figurent dans le plan d'immigration pour 2018 déposé jeudi à l'Assemblée nationale. Selon ce document, la baisse du nombre de francophones découle du fait qu'il y a de moins en moins de francophones parmi les travailleurs qualifiés admis au Québec. Parmi les travailleurs qualifiés, 65 % disent connaître le français à leur arrivée au Québec, ce qui est bien en dessous de la cible minimale de 85 % que s'était donné le ministère dans ses orientations. Pendant ce temps, le gouvernement se prépare à changer en profondeur son système d'immigration. En vertu du nouveau système, la déclaration d'intérêt, le Québec pourra constituer une banque de candidatures dans laquelle il pourra piger en fonction de ses besoins. Les chirurgies du cœur ont plus de succès en après-midi. Les patients qui subissent une chirurgie à cœur ouvert ont plus de complications si cette intervention est effectuée le matin plutôt que l'après-midi, révèle une étude publiée dans The Lancet. Cette étude précise également le rôle de l'horloge biologique du cœur dans ses variations diurnes. On savait déjà que les infarctus du myocarde et les accidents vasculaires cérébraux surviennent plus fréquemment tôt le matin qu'en soirée. Certaines études ont aussi suggéré que les infarctus du myocarde seraient plus graves quand ils se produisent le matin. Cette fois, des chercheurs du Centre hospitalier universitaire, le CHU de Lille, en France, ont voulu savoir si une chirurgie cardiaque telle que le remplacement de la valve aortique du cœur entraînait plus de complications si elle était pratiquée le matin plutôt que l'après-midi. Encore une fois, les 44 patients dont le remplacement de la valve aortique a été effectué en après-midi présentaient un muscle cardiaque moins endommagé que ceux l'ayant subi le matin, ce qui démontrait que procéder à la chirurgie l'après-midi assurait une certaine protection et une meilleure récupération, écrivent les auteurs. Dans un commentaire publié également dans The Lancet, Thomas Beaucaton et Michel Auvive de l'hôpital Louis-Pradel à Lyon en France considèrent ces résultats si convaincant qu'il recommande dès maintenant aux chirurgiens cardiaques d'opérer leurs patients les plus à risque l'après-midi. Et c'est bien Michel Auvise. Saputo s'empare de la coopérative australienne Murray Goulburn, MG, pour une contrepartie évaluée à 1,29 milliard canadiens. L'acquisition pourrait lui conférer la moitié du marché australien des produits laitiers. Dans son annonce, Saputo précise que la transaction appuyée par le conseil d'administration de MG n'implique la prise en charge d'aucune dette. Elle sera financée par voie de prêt bancaire. L'entreprise convoitée emploie 2300 personnes et exploite 11 usines en Australie et en Chine. Son chiffre d'affaires atteignait l'équivalent de 2,5 milliards de dollars canadiens au cours de la période de 12 mois close le 30 juin 2017, dégageant un bénéfice d'exploitation de 78 millions de dollars canadiens, mais une perte nette de 370 millions. L'entreprise Irving Oil Commercial GP est contrainte de payer des amendes totalisant 4 millions de dollars après avoir plaidé coupable à 34 chefs d'accusation pour des infractions à la loi sur le transport des marchandises dangereuses commises notamment lors de la tragédie de Lac-Mégantic. Les infractions ont été répertoriées sur une période de 8 mois, soit de novembre 2012 à juillet 2013. Elle concernait le transport d'environ 14 000 wagons de pétrole brut pour le compte d'Irving Oil. Rappelons que le 6 juillet 2013, un train mis à l'arrêt pour la nuit qui transportait 7,7 millions de litres de pétrole brut a dévalé la pente entre Nantes et Lac-Mégantic à une vitesse de 104 km à l'heure, provoquant une énorme explosion et un vaste incendie qui ont causé la mort de 47 personnes. Et finalement, la possibilité que Justin Trudeau conteste la loi québécoise sur la neutralité religieuse semble créer un malaise parmi ses députés québécois qui hésitaient jeudi à se prononcer sur la question après que deux de leurs collègues se furent opposés à une intervention d'Ottawa. On parle ici des ministres François-Philippe Champagne et de Marc Garneau. Vous écoutez les voix de service quotidien en ce beau vendredi 27 octobre 2017. Hélène Denis qui vous invite à rester des nôtres pour, entre autres, la revue de presse du Journal de Montréal.
Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
I said, Georgia. Georgia, a song of you, comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you. I said, Georgia, Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in peaceful dreams I see. The road leads back to you. Oh, 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 Georgia, Georgia. No peace, no peace I find. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia, Georgia.
I say just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Ah, l'inimitable Ray Charles et sa chanson Georgia on my mind.
À la une du Journal de Montréal, elle veut qu'on déclare son père coupable. En attente de la décision du jury, Dania Nem est convaincue que son père, Ahmad, est coupable du meurtre de sa mère, même s'il tente de plaider, la non-responsabilité criminelle. Guy Ouellette. P, trait d'union, O, trait d'union, U, trait d'union, R, trait d'union, Q, trait d'union, O trait d'union, I trait d'union. Pourquoi? Jour 2, sans explication. À Curceau, avait payé la designer d'intérieur à Laval et à la FTQ. Terrorisé à l'idée que son père évite la prison à vie, Ahmad Nem a plaidé la folie pour le meurtre de son épouse. Une jeune Montréalaise qui a perdu sa mère tuée par son propre père est terrifiée à l'idée que ce dernier s'en sorte en plaidant la folie, alors que le jury a entamé ses délibérations. Il plaide la non-responsabilité criminelle, mais je sais que ce n'est pas vrai. C'était un meurtre prémédité et un autre verdict serait injuste, complètement injuste, a dit Dania Nem en entrevue au Journal de Montréal hier. La jeune femme de 22 ans attend avec anxiété le verdict du jury au procès de son père, Ahmad Nem, accusé d'avoir tué de 18 coups de couteau Catherine de Boucherville le 5 juillet 2012 dans sa résidence de La Salle. Le couple était marié depuis 19 ans. Dania Nem était dans le logement tout comme son petit frère autiste. C'est la fille du couple qui avait appelé la police en entendant les cris de sa mère dans la salle de bain. « C'est un traumatisme que je devrais porter pour le reste de ma vie », dit-elle. Pour la couronne, il s'agit d'un meurtre prémédité. La défense de son côté a plaidé la folie. Ahmad Nem a dit qu'il croyait que sa femme le trompait et qu'elle allait le liquider avec un prétendu amant pour sa fortune, même s'il n'avait que des dettes. Il sait très bien à quoi il joue. Presque tout ce qu'il dit, ce sont des mensonges, affirme Dania Nem. La jeune femme a attendu plus de 5 ans avant que ne débute le procès de son père. Elle a témoigné expliquant que la vie familiale était comme l'enfer sur terre. Elle parle de son père, ne mérite pas de voir ses enfants grandir. Filature et interception d'appels pour Guy Ouellette. Les enquêteurs auraient notamment ses registres téléphoniques des 3 dernières années. Les enquêteurs de l'UPAC cherchent depuis le printemps à colmater les fuites dans leur propre organisation et n'ont négligé aucun moyen d'enquêter afin d'épingler le député de Chomedey, donc député libéral Guy Ouellette, qui s'est retiré du caucus hier. Guy Ouellette a finalement été arrêté mercredi après-midi, quelques heures seulement après que le domicile du policier Stéphane Bonhomme à Boucherville et celui de l'ex-policier Richard Despatie à Brossard eurent été perquisitionnés. Ces deux personnes sont soupçonnées d'entrave à la justice et d'abus de confiance, a confirmé l'UPAC, sans toutefois identifier les individus. Cette enquête vise l'ancien premier ministre Jean Charest et le collecteur de fonds libéral Marc Bibot. Plus de 24 heures après l'arrestation de M. Ouellet, aucune accusation n'a toutefois été déposée. Selon nos informations, l'équipe d'enquête mixte qui se penche sur les fuites croit que le policier Stéphane Bonhomme subtilisait des documents dans les bureaux de l'UPAC pour ensuite les transférer à l'ancien policier Richard Despatie. Ce dernier, un ami de longue date de Guy Ouellet, trouvait ensuite un moyen de les partager avec le député. M. Despatie est un ancien enquêteur de l'UPAC qui avait été congédié en octobre 2016 car il avait encouragé une personne à dénoncer des irrégularités dans les médias. Léa Clermont-Dion porte plainte contre Michel Venn. L'ancien journaliste nie les allégations d'agression sexuelle qui le vise. Après avoir gardé le silence pendant près de 10 ans, l'animatrice et auteure Léa Clermont-Dion dénonce publiquement Michel Venn qui l'aurait agressée sexuellement alors qu'elle était mineure. La surprise, j'ai droit à une promotion. Je dois accompagner le grand boss pendant quelques jours. Je déchante un peu quand je constate que mon idole est étrange et déplacée. Je déchante tout court quand je me fais agresser. Ce sont les paroles de Léa Clermont-Dion. Elle parle de l'homme, Michel Venn, ancien journaliste et fondateur de l'Institut du Nouveau Monde, une organisation politique militant pour la participation citoyenne, et en compagnie de plusieurs autres jeunes, elle a travaillé l'instant d'un été à ses côtés. Malgré tout, elle ne dénonce pas. C'était en 2008. Puis, en 2014, survient le mouvement « Agression non dénoncée ». Dans la foulée du scandale concernant l'animateur Gian Gomeschi. Mme Clermont-Dion ressent le besoin de parler publiquement de son histoire sans toutefois nommer son présumé agresseur, mais l'année suivante, Lise Payette l'appelle pour la décourager de porter plainte. Michel Venn a pour sa part réfuté hier, via Facebook, les allégations qui le visent. Lise Payette, la toute première ministre de la Condition féminine du Québec, reconnaît avoir tenté de dissuader Léa Clermont-Dion de porter plainte. Mais elle affirme que c'était pour protéger la jeune femme et non le présumé agresseur. À cette époque, elle était très jeune et mon conseil a été de la faire réfléchir à ce que ça entraînait, a-t-elle expliqué. Et j'avais peur, pour elle, que ça nuise à ses capacités de développement personnel. Je lui ai dit « Regarde si tu t'en vas toute seule là-dedans en ce moment. Il est possible que tu n'aies plus de travail jamais. » Et je lui avais fait remarquer ça. Elle a précisé que Michel Venn n'est pas une amie et qu'elle n'a pas cherché à étouffer l'affaire. Aujourd'hui, elle ne donnerait pas le même conseil puisque les femmes sont maintenant regroupées. Les défunts affectés par la montée des eaux à Matane. Les changements climatiques dérangent même les morts, alors que 10 cercueils et 11 urnes ont dû être déplacés d'un cimetière à Matane. L'érosion des berges et les hautes marées risquaient d'entraîner les cadavres à la mer. Dans les années 1940, le terrain du cimetière du Petit Matane comptait 50 à 100 pieds de berges. Il était un superbe endroit pour un dernier repos ou pour honorer la mémoire d'une personne décédée. Mais chaque année, la mer est venue gruger du terrain. Les épisodes de grande marée, comme en 2016, ont causé des dommages. Il a donc fallu prendre une décision pour protéger certains morts de la marée. La corporation du cimetière de Matane a demandé aux familles des défunts leur autorisation pour déterrer les cercueils et les urnes et ensuite les replacer dans un endroit moins à risque ailleurs dans le cimetière ou dans l'autre cimetière de Matane situé en haut de la ville. La plupart des gens de ces rangées-là s'inquiétaient déjà de ce qui allait arriver avec les marées. Ça a été accueilli de façon très favorable. On n'a pas voulu attendre que la marée fasse du dommage, a dit M. Roussel. « Explosion d'amendes pour des demi-tours. Plus de 48 000 constats pourraient être remis en 2017. Deux fois plus de constats d'infraction pourraient être remis cette année à des automobilistes effectuant des demi-tours illégaux à Montréal comparativement à l'année passée, a-t-on appris. Le porte-parole de la Société de l'assurance automobile du Québec, SAAQ, Mario Vaillancourt, rappelle que cette manœuvre, même lorsqu'elle est effectuée légalement, peut être dangereuse et requiert une grande vigilance de la part des automobilistes. Ce qu'on recommande, c'est que si le conducteur veut rebrousser chemin, c'est toujours mieux de poursuivre sa route jusqu'à un endroit où le virage pourra être fait de façon sécuritaire. On peut encore effectuer un demi-tour dans une entrée privée, a-t-il suggéré. Le nombre d'opérations policières sur la voie Camilien-Houde a considérablement augmenté depuis le décès de Clément Ouimet, le 4 octobre. Le cycliste a été happé par un automobiliste américain qui pratiquait un demi-tour illégal dans cette voie. Selon la porte-parole de Vélo Fantôme, Montréal, Gabriel Anctil, ces opérations policières ne seront pas suffisantes pour changer les comportements des automobilistes. C'est bien beau donner des contraventions, mais les policiers ne seront pas là 24 heures sur 24, a-t-elle rappelé. Avec Clément Ouimet, ça n'a pris qu'une personne qui a fait un U-turn et qui l'a tué, a-t-elle ajouté.
L'après-midi au rond-point au carré, la fontaine de Saint-Louis, tu te rends, tu y vas. Alors comme à l'habitude, mes amis se trouvent pas, tu es seul, fais comme un rat, ce n'est rien, ce n'est rien. Je vais lui téléphoner, ce n'est rien, ce n'est rien. Elle a seulement oublié, mais juste au moment où tu es allé vers la cabine, tu la vois rigolant avec copains et copines. C'est pas facile quand Isabelle te laisse tomber, à pas de quoi rire quand Isabelle te fait marcher. La salope à la vache, mais pourquoi elle ne dit rien? La salope à la vache, elle te traite comme un chien, mais ton cœur est trop tendre et tu préfères l'attendre dans le café d'en face, comme un espion, comme un con. Mais enfin, au moment où ton café s'en venait, tu la vois, elle repart assise sur la mobilette de ton pote, ou enfin celui que tu t'en doutais. Tu te dis, c'est fini, elle partit avec lui. C'est pas facile quand Isabelle te laisse tomber.
Sa chanson Isabelle.
Halloween, l'horreur dans toute sa splendeur. Le cinéaste John Carpenter connaît une popularité renouvelée grâce à sa musique. C'est un texte de François Lévesque dans Le Devoir d'aujourd'hui. Les exemples de films boudés en leur temps, reconnus plus tard comme majeurs, sont trop nombreux pour être énumérés. À cet égard, le réalisateur John Carpenter constitue un excellent cas de figure, rappelant aux critiques que le snobisme est le meilleur moyen de se retrouver du mauvais côté de l'histoire du cinéma. Désigné par des cinéastes tels Guillermo del Toro et Quentin Tarantino comme une influence majeure, L'œuvre cinématographique de Carpenter jouit depuis quelques années d'une réévaluation à la hausse. Or, ce second âge d'art s'incarne aussi à travers la musique qu'il composa pour ses films. À l'approche de son concert sur la scène du MTLUS le 13 novembre, le cinéma du parc présente son classique de l'épouvante Halloween dès le 27 octobre, c'est aujourd'hui. Pour autant, c'est avec un John Carpenter typiquement modeste que l'on s'est entretenu. Lorsqu'on lui demande s'il est sensible à ce respect tardif qu'on lui a si longtemps refusé, John Carpenter répond avec truculence et je cite « Eh bien, c'est mieux que de se faire chier dessus, croyez-moi. » Voilà qui donne une idée du personnage. En l'occurrence, c'est par nécessité que John Carpenter composa la musique de ses premiers films, Assault on Precinct 13, une variation de Rio Bravo d'Howard Hawks, recadrant l'action dans un poste de police assiégé, et Halloween, où l'affrontement entre un psychopathe masqué silencieux et une gardienne d'enfants débrouillarde. Sans oublier auparavant le pastiche de science-fiction Dark Star, film étudiant gonflé en long métrage. Sur Assault, j'ai tout enregistré en une journée. Pour Halloween, j'ai eu plus de temps, 3 jours, précise-t-il en riant, confirmant du même souffle avoir composé le thème principal d'Halloween en 1 heure, lequel thème s'est inscrit de manière durable dans la culture populaire. Enfance formatrice. Un accomplissement d'autant plus remarquable qu'à l'époque, John Carpenter ne savait ni lire ni écrire la musique. Par contre, j'ai grandi dans une maison où la musique faisait partie du quotidien. Mes parents étaient mélomanes. Mon père avait une formation en musique classique et était professeur de musique. J'ai dû beaucoup absorber ce que j'entendais plus jeune. Je pense que la musique classique qu'écoutaient mes parents s'est retrouvée dans mes propres constructions musicales. Son enfance ne fut pas seulement marquée par la musique, mais aussi et peut-être surtout par le cinéma. Adolescence cinéphile, il tourna très tôt des films avec sa caméra Super 8. J'étais fan des westerns de John Ford et d'Howard Hawks, mais le premier film où j'ai vraiment pris conscience du pouvoir de la réalisation est probablement Forbidden Planet, Planète interdite, de Fred M. Wilcox. C'est aussi avec ce film que j'ai compris à quel point la musique joue un rôle déterminant pour générer du suspense, mais aussi pour créer une atmosphère. Je devais avoir 8 ou 9 ans quand je l'ai vu. De ma vie, je n'avais jamais rien entendu de tel. La musique de Bebe, B-E-B-E, ou Bébé, et Louis Baron, pionnier de la musique électronique, m'a scié. Un son familier. Ceci expliquant sans doute en partie cela, composition et réalisation sont demeurées indissociables pour John Carpenter qui signa ou co-signa la musique de la majorité de ses films. Or, même lorsqu'il composa celle de The Thing, La Chose, l'immense Ennio Morricone, recouru à une sonorité électronique inhabituelle pour lui, mais typique de Carpenter. À ce propos, bien des gens certains de ne pas bien connaître la musique de John Carpenter la connaissent à leur insu. En effet, du travail du musicien Trent Reznor pour certains films de David Fincher comme Social Network à des succès indépendants de jeunes cinéastes comme The Guest et It Follows, sans oublier la série Stranger Things, l'influence musicale de Carpenter s'est propagée au point où son patronyme est désormais synonyme d'un style musical immédiatement reconnaissable. Un son électronique minimaliste qui induit une tension sourde en recourant à des synthétiseurs. Récemment, la reprise par Reznor du thème d'Halloween a énormément circulé sur les réseaux sociaux. Musique ou cinéma? C'est toutefois en compagnie de son fils Cody que John Carpenter a repris goût à la musique, et non à cause de sa notoriété renouvelée. Entre 2 sessions de jeux vidéo, les 2 hommes se sont un jour mis à improviser à la guitare, au clavier. Ma conjointe venait de m'offrir un ordinateur équipé de tout un tas de logiciels musicaux et sonores. On s'est juste amusé. Créé avec son fils et son filleul Daniel Davis, les albums Lost Team 1 et 2 parurent en 2015 et 2016. S'amorça une tournée. La première à vie de John Carpenter qui se poursuit à guichet fermé. En octobre dernier est sorti Anthology Movie Teams 1974-1998. Cette productivité est aux antipodes de celle qu'il a déployée au cinéma, avec seulement 3 films en 20 ans, dont le plus récent remonte à 2010. Si on lui offrait de réaliser un film ou d'enregistrer un album, que choisirait-il à présent? L'album, c'est tellement plus agréable, moins stressant. Quoique avec le bon projet, je réaliserais volontiers un autre film, mais il faudrait qu'on me fiche la paix. On touche ici à la nature profonde de l'auteur. Ainsi, John Carpenter n'a jamais fait partie de la fratrie du Nouvel Hollywood avec les Spielberg, Lucas, De Palma et autres Scorsese, dont il est pourtant le contemporain et avec qui il partage un parcours et des intérêts similaires. Ses pairs ne l'ont pas tenu à l'écart, se définissant comme un vieux gauchiste dans un monde qui va inexorablement à droite. Carpenter est un solitaire, à l'instar de la plupart des protagonistes qu'il a mis en scène. Quant aux intrigues qu'il a privilégiées, elles possèdent toute une composante anti-establishment. Premier amour. Sachant cela, on ne s'étonne guère que John Carpenter eût consenti à composer la musique de la nouvelle suite d'Halloween que réalisera David Gordon Green. C'est la boîte indépendante Blumhouse Pictures, derrière des succès répétés en horreur comme La Conjuration, en français, Split et Get Out, qui produira. Et Blumhouse n'a pas la réputation de donner dans la micro-gestion, contrairement aux grands studios, ce qui n'a sûrement pas déplu à Carpenter, qui ne voulait pas réaliser lui-même. « J'espère juste avoir plus de 3 jours pour faire la musique », rigole-t-il encore. Sérieusement, j'essaie de ne pas y penser pour l'instant. Je vais discuter avec David et la production pour déterminer ce qu'ils veulent exactement. Des variations du thème original? Quelque chose d'entièrement nouveau? C'est excitant, conclut John Carpenter. À défaut de retourner derrière la caméra, c'est en tout cas un rapprochement. Le cinéma a toujours été et restera toujours mon premier amour, confie-t-il après un silence. Après des années d'indifférence, on se réjouit que John Carpenter soit enfin aimé en retour. C'est donc la chronique de François Lévesque, l'horreur dans toute sa splendeur. Le cinéaste John Carpenter connaît une popularité renouvelée grâce à sa musique. Dans le Journal de Montréal, François Lambert veut s'allier aux humoristes. Le sauvetage de Juste pour rire passe par ses artisans, affirme l'ex-dragon. L'homme d'affaires et ex-dragon François Lambert ajoute son nom à la liste d'acheteurs potentiels du groupe Juste pour rire, mais le futur propriétaire, quel qu'il soit, devra s'allier aux humoristes québécois, dit-il. C'est dans le Journal de Montréal, sous la plume de Philippe Orfali. Il faut garder Juste pour rire au Québec. La marque a besoin d'un renouveau et ça doit se faire de façon intégrée avec les humoristes. Peu importe le groupe, il va falloir qu'ils soient là. Ils doivent être impliqués, éventuellement dans un partenariat tant financier qu'autre. Les jeunes veulent participer au capital action de l'entreprise. Il faut regarder ça, a-t-il affirmé en entrevue au journal. S'il finit par acheter le groupe en déroute, l'homme d'affaires multimillionnaire s'engage à intégrer des humoristes au sein du conseil d'administration de l'entreprise, ajoute-t-il. Il ajoute ainsi son nom à celui d'un autre dragon, Alexandre Taillefer, au groupe de spectacle Evanco et à Comédia, notamment, qui figure parmi les acheteurs potentiels confirmés du groupe appartenant à Gilbert Rozon. Le fondateur de Juste pour rire est accusé d'agression sexuelle sur de nombreuses femmes. Par ailleurs, le restaurateur Jérôme Ferrer affirme que les choses vont comme à l'habitude dans les 6 restaurants Jerry, une co-entreprise qu'il a fondée avec Juste pour rire. J'ai une affiliation avec Juste pour rire, pas avec M. Roson. On est vraiment secoué par tout ça. Pour la suite, c'est entre les mains de nos avocats. Merci d'écouter Canal M de Vues et Voix. À venir, une chanson pour vous. Et aussi, il y aura les actualités internationales, culturelles, ainsi que la tournée des journaux régionaux.
Ça sert à quoi de faire semblant de rire? Ça ne va pas te voir partir. J'en mourrai pas. J'ai l'habitude des plaisirs qui ne durent pas.
Ça sert à quoi de taire mes soupirs? Je m'ennuie déjà, j'ai peur du vide. J'en mourrai pas, j'ai l'habitude, ça me déchire.
Qui meurt de faim,
je tremble,
je compte les heures, mais je me retiens
de t'attendre.
Ça sert à rien, je connais déjà le chemin entre l'ombre et la lumière. J'ai jamais eu besoin qu'on me tienne la main quand j'ai eu à traverser le désert. La lune monte
et moi je tombe. Ça sert à quoi? Pas besoin de me mentir.
Tu pars pour ne plus revenir.
J'en mourrai pas.
J'ai l'habitude, j'ai vu pire. Je n'ai vu que ça. J'ai le cœur qui meurt de faim. Je tremble. Compte les heures, mais je me retiens de t'attendre.
Ça sert à rien, je connais déjà le chemin
entre l'ombre et la lumière. J'ai jamais eu besoin qu'on me tienne la main quand j'ai eu à traverser le désert.
Gagnant du Félix de l'album de l'année catégorie réinterprétation, Sophia Nolin était en compagnie ici de Marie-Carmen pour la chanson Entre l'ombre et la lumière.
Actualité internationale, la Catalogne déclare son indépendance, Madrid réplique. Le Parlement de Catalogne a adopté vendredi une résolution déclarant que la région devient un État indépendant prenant la forme d'une république, une rupture sans précédent en Espagne. Le Sénat espagnol a presque aussitôt répliqué en autorisant le gouvernement de Mariano Rajoy à prendre des mesures de mise sous tutelle de la Catalogne, qui comprennent notamment la destitution de ses dirigeants indépendantistes. La proposition du gouvernement, basée sur l'article 155 de la Constitution, a été approuvée par 214 voix pour, 47 contre et une abstention, et sera notamment transmise au gouvernement central et à l'exécutif catalan, a déclaré le président du Sénat, Pío García Escudero. Après la déclaration d'indépendance catalane, le chef du gouvernement, Mariano Rajoy, avait réagi sur Twitter en promettant de restaurer la légalité en Catalogne. La résolution a été adoptée en l'absence de l'opposition qui avait quitté l'hémicycle par 70 voix pour, 10 voix contre et 2 abstentions, les partis séparatistes allant de l'extrême gauche au centre droit, sont majoritaires en siège, 72 sur 135 au Parlement. Les élus ont ensuite entonné l'hymne nationaliste et crié « Vive la Catalogne !» Des centaines de soldats en costumes traditionnels multicolores avançant au chant des moines devant une foule en pleurs, la Thaïlande a célébré hier avec faste les funérailles de son monarque au statut de demi-dieu savamment entretenu par la junte militaire et l'élite conservatrice. La junte aux manettes du gouvernement et la monarchie n'ont pas lésiné sur les dépenses. La cérémonie et la construction du site de la crémation sont estimées à 90 millions de dollars. Les meilleurs artisans du pays ont travaillé pendant des mois pour construire le site de la crémation. Plus de 300 000 Thaïlandais étaient massés, selon les autorités, le long du tracé du convoi funéraire, et des dizaines de milliers d'autres se sont rendus dans tout le pays, dans les temples ou devant des autels à sa gloire. Il était un modèle pour nous. Ce n'était pas un roi comme les autres. Nous espérons que son fils saura suivre son exemple, confiait à l'AFP dans la foule, Fakamar Supromin, 41 ans. Le corps du roi Bhumibol Adulyadej, décédé le 13 octobre 2016 à 88 ans, était conservé au palais entouré d'un constant cérémonial bouddhiste régulièrement diffusé à la télévision. Entre violence et faible participation, la présidentielle accumule les ratés, boycottage de l'opposition, participation en berne, au moins 4 morts dans des heurts avec la police, report du scrutin à demain dans l'Ouest, l'élection présidentielle hier au Kenya, a connu une accumulation de ratés qui laisse augurer des lendemains difficiles. Convoqué après une première présidentielle annulée et au terme d'une crise de 2 mois qui a divisé la nation, cette élection devrait voir le président sortant Uhuru Kenyatta, 56 ans, largement réélu en raison du boycottage de son principal opposant, Raila Odinga, 72 ans. Les forces irakiennes ont repris hier des bases militaires et des villages de l'ouest frontalier de la Syrie au premier jour de leur assaut sur le dernier bastion irakien du groupe État islamique. Cette offensive est menée alors que de l'autre côté de la frontière, les troupes du régime syrien et leurs supplétifs font mouvement pour prendre en étau les combattants du groupe ultra-radical. La bataille vise à étrangler l'organisation djihadiste dans son dernier carré, dans la moyenne vallée de l'Euphrate qui court de la province de Deir ez-Zor dans l'est de la Syrie jusqu'à Al-Qa'im dans l'ouest de l'Irak. Et le pape François s'est entretenu en direct hier avec les 6 astronautes à bord de la Station spatiale internationale, l'occasion de leur demander leur avis sur la place de l'homme dans l'univers. C'est la deuxième fois de l'histoire qu'un pape communique avec l'espace, son prédécesseur Benoît XVI l'ayant fait en 2011. « Bonjour ou bonsoir, parce que quand on est dans l'espace, on ne sait jamais », a d'abord lancé le pape François à 400 km assis dans une salle au Vatican pour ce direct par satellite devant un large écran. L'astronomie vous fait contempler les horizons infinis de l'univers et suscite chez nous des interrogations. D'où venons-nous? Où allons-nous? A-t-il commenté. Actualité culturelle, Hochelaga Terre des âmes sortira le 19 janvier 2018, près de deux mois après des représentations spéciales à Montréal et son lancement international au Festival de Toronto. Les choses se précisent enfin pour la mise en marché de Hochelaga Terre des âmes, la fresque historique de François Girard qui relate l'histoire de Montréal à travers ses racines autochtones, prendra l'affiche sur les écrans québécois le 19 janvier 2018. On saura alors si le long-métrage qui représente le Canada dans la course à l'Oscar du meilleur film en langue étrangère aura franchi la première étape pour atteindre le statut de finaliste. Rappelons qu'une première sélection au cours de laquelle 9 candidats seront retenus sera faite en décembre. Le dévoilement des 5 finalistes aura lieu le 23 janvier. Signalons aussi la sélection d'Hochelaga Terre des âmes parmi les films étrangers que présentera le Festival de l'American Film Institute qui se tiendra à Hollywood du 9 au 16 novembre. La bande-annonce présentée ici en primeur sera lancée dans les salles aujourd'hui en prélude du film « Pieds nus dans l'aube ». C'est un texte de Marc-André Lucier dans la presse. Le plus célèbre festival de cinéma en région a commencé hier, mais la soirée d'ouverture officielle aura lieu demain soir au Théâtre du Cuivre à Rouyn-Noranda. Junior majeur, dont la tête d'affiche est Antoine-Olivier Pilon, y sera lancé en primeur mondiale. Le 36e Festival de cinéma international en Abitibi-Témiscamingue bat son plein jusqu'au 2 novembre. Dodo au cinéma, Dominique Michel et Yvon Deschamps seront présents à la Cinémathèque québécoise mardi 31 octobre pour présenter « Tiens-toi bien après les oreilles à papa », la première des 5 comédies des années 70 restaurées par Éléphant, faisant partie du Festival Dominique Michel qui commence donc le 31 octobre jusqu'au 7 novembre à la Cinémathèque québécoise. Toujours en cinéma, le cinéma Beaubien propose aujourd'hui et demain une captation de la pièce de Molière « Les fourberies de Scapin » actuellement jouée à la Comédie-Française de Paris dans une mise en scène de Denis Podalydès. Benjamin Laverne en est la tête d'affiche. Alors c'est aujourd'hui 10h, c'est déjà commencé, et demain 13h au cinéma Beaubien. Alors que l'industrie musicale vit des turbulences en raison de la montée en flèche de la popularité d'applications comme Spotify, la nouvelle ministre de la Culture, Marie Montpetit, dévoilera aujourd'hui son plan pour la musique en investissant 8,4 millions sur 2 ans. Cette enveloppe qui sera dépensée entre 2017 et 2019 est divisée en 4 axes, dont le plus important, 5,75 millions, servira en bonne partie à soutenir les entreprises de production musicale dans leur virage numérique. Selon le New York Times, le cinéma d'horreur a connu le meilleur box-office de son histoire, et cela même si l'année n'est même pas terminée et que l'Halloween s'en vient. Il faut remercier pour cela le film It d'Andy Muschietti, qui a dépassé de loin les prévisions, plus de 300 millions de dollars, mais aussi les films Get Out, Happy Dead Day ou Split. En tout, le genre a accumulé en 2017 des recettes de plus de 733 millions de dollars. Il faut remonter à l'année 2000 pour retrouver un tel phénomène quand la franchise Scream était au sommet de sa popularité, ainsi que sa parodie Scary Movie pour des recettes globales de 617 millions. Une exposition retraçant le règne de Prince dans le monde de la pop et comportant de nombreuses reliques ayant appartenu à l'artiste mort en 2016 ouvre ses portes aujourd'hui à Londres. My Name is Prince, un montage rétrospectif de la carrière du chanteur américain, est présenté à Londres, salle de spectacle O2 Arena, la salle de spectacle qu'il avait accueillie pour 21 concerts en 2007. Un audioguide sur les oreilles, le visiteur peut suivre à travers les instruments tenus de scène et récompenses les grandes étapes du parcours artistique du Kid de Minneapolis. On peut notamment y admirer des pochettes de Purple Rain, les lunettes portées sur celles du dernier album et sa mythique guitare Chuck Orr. L'exposition est présentée jusqu'au 7 janvier 2018. La chaîne de télévision familiale Disney Channel a indiqué hier qu'elle allait diffuser pour la première fois un épisode avec une intrigue homosexuelle dans sa série Andy Mac. L'épisode est diffusé aujourd'hui aux États-Unis. La série pour adolescents, créée par la scénariste Terry Minsky, est centrée autour du personnage d'Andy, une jeune fille de 13 ans. Son meilleur ami, Cyrus, et elle admettent durant cet épisode qu'ils sont attirés par le même garçon. Terry Minsky ou Minsky, les acteurs et l'équipe de tournage ont eu à cœur que l'épisode convienne à tous les âges et envoie un message puissant d'intégration et de respect, a commenté une porte-parole de Disney dans un communiqué. Ève Landry attend un deuxième enfant moins d'un an après avoir donné naissance à sa fille Frédérique. La comédienne Ève Landry est de nouveau enceinte, apprend-on dans le magazine Éco-Vedette, c'est publié dans le Journal de Montréal aussi. La vedette d'Unité 9, qui s'affaire d'ailleurs sur le plateau de la populaire émission, est enceinte d'environ 4 mois selon la publication. La venue de la cigogne est donc attendue pour la fin de l'hiver. Il s'agira d'un deuxième enfant pour le couple formé d'Ève Landry et son amoureux Jérémy Lemieux. Pour une deuxième année de suite, Jacques Goldstein remporte le prix du livre jeunesse des bibliothèques de Montréal, doté d'une bourse de 5 000 $. Ce nouvel honneur pour le dessinateur des débrouillards lui est accordé pour l'album Azada, publié à la Pastèque, composé de 5 bibliothécaires. Le jury a été charmé par ce récit percutant, lumineux et bouleversant campé en Afghanistan. Azada s'appuie sur un travail à l'aquarelle pour aborder les droits des enfants et des thèmes comme la perte et l'espoir. La 13e édition de ce prix mettait en lice 4 autres finalistes auxquels on a remis une bourse de 500 $. La tournée des journaux régionaux, Louis, Denis et Bacher dans le droit. Battue parce qu'elle refusait de porter le hijab. Un père de famille de Gatineau est accusé au criminel car il battait sa fille refusant de porter le hijab. L'homme de 35 ans, qu'on ne put identifier afin de protéger l'identité de l'adolescente, a comparu jeudi au palais de justice de Gatineau. Il a été arrêté mercredi. Selon nos informations, a déclaré l'agente André East, du service de police de la ville de Gatineau, les mesures punitives imposées par le père se sont aggravées lorsqu'il a appris que sa fille enlevait son hijab dès qu'elle s'éloignait de la maison familiale. L'adolescente a trouvé le courage de dénoncer la situation, a complété l'agente East. La violence physique a duré au moins un an. Le quotidien Les Phoques quittent Saint-Félicien. Louis Potvin qui écrit le texte. Le zoo sauvage de Saint-Félicien doit se départir de ses trois phoques puisque l'habitat actuel ne convient plus à ses standards de qualité. La direction a fait l'annonce de cette décision difficile vu l'attachement à leurs bêtes. Comme la construction d'un nouvel habitat à l'eau salée aurait été trop onéreuse, le zoo a donc décidé de les transférer au zoo d'Edmonton. Et encore dans le quotidien, Patricia Rainville, sans grande surprise, la saison des croisières qui se termine vendredi a battu des records. 55 navires et 65 395 passagers et membres d'équipage ont fait escale en 2017. Du 29 septembre au 12 octobre, 19 navires ont été accueillis en une douzaine de jours. Cela représente 23 118 passagers et membres d'équipage. Le point culminant a été le 6 octobre avec 6 000 passagers dans la même journée. Des records ont également été établis en lien avec le nombre d'heures moyennes en escale qui s'établit pour 2017 à 15,25 heures comparativement à 8,5 heures en 2016. De plus, en date du 18 octobre, plus de 4000 billets avaient été vendus pour les navettes terrestres, offrant des visites touristiques dans les arrondissements de la ville et plus de 5381 visiteurs ont assisté à la version anglophone de la fabuleuse Une saison record au quai de la baie. Dans la tribune, Jean-François Gagnon, tout l'espoir qu'une résidente de Magog, Valérie Beauregard, devra purger une peine d'emprisonnement parce qu'elle n'a pas payé la licence qui lui aurait permis de posséder un chat. Selon les informations obtenues auprès de la ville de Magog, Mme Beauregard séjournera durant une quinzaine de jours en prison. Cette sentence lui a été imposée par la cour municipale locale. L'histoire remonte à 2009, indique la coordonnatrice des communications de la ville de Magog, Claudia Fortin. À l'époque, cette dame n'a pas acquitté les frais pour la licence de son chat. Plusieurs appels sont faits dans ce genre de cas. Mais elle n'a pas fait le paiement demandé et une amende de 75 $ lui a été remise à cette époque. Précisant que le contrôle des chats à Magog relève de la Société protectrice des animaux de l'Estrie, Mme Fortin affirme que de multiples tentatives d'entrer en contact avec Valérie Beauregard ont été effectuées depuis 2009. Elle ne se serait cependant jamais manifestée. Avec les années, le coût de l'amende a augmenté, de sorte qu'on lui réclame une somme de 650 $ aujourd'hui. Des biens auraient pu être saisis chez elle pour effacer la somme due, mais ses avoirs personnels n'ont pas permis ce type de règlement. Elle n'aurait par sur quoi pas donné suite à une proposition de réaliser des travaux compensatoires. On est très collaborateurs dans de tels cas. D'ailleurs, personne n'est heureux de la façon dont les choses ont évolué, assure Claudia Fortin, en notant qu'une entente de dernière minute reste possible. Et dans la tribune, Isabelle Pillon, des écoles d'ici inspirantes pour le Lab École de la Grande Visite, s'est arrêtée à l'école primaire de l'Écollectif mercredi. Dans le cadre de Lab École, ce projet qui vise à repenser l'école québécoise, l'architecte Pierre Thibault est allé à la rencontre des élèves et des enseignants. L'école des enfants de la Terre de Waterville figure aussi dans les établissements qui ont retenu l'attention. Le Lab École est un projet dont les trois têtes d'affiche sont l'architecte Pierre Thibault, le populaire cuisinier Ricardo Larrivé et Pierre Lavoie, qui a fait de l'activité physique son cheval de bataille. L'Écollectif, qui accueille 135 élèves, a maintes fois fait parler d'elle. Bien avant la réforme, le travail d'équipe et par projet occupait une grande place. L'école, à vocation particulière, s'est retrouvée sous les projecteurs pour le succès et les bénéfices engendrés par le programme « Je bouge », où les enfants font 100 minutes supplémentaires d'activité par semaine. Elle est aussi reconnue pour sa gestion participative où les parents sont très impliqués dans différentes décisions. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très beau week-end. Joyeux Halloween, c'est le gala de la disque dimanche, on y reviendra certainement lundi prochain. Un grand merci à Mathieu Tessier à la mise en onde et aussi au choix musical. Allez-vous dans un party d'Halloween en fin de semaine, Mathieu?
Non.
Pourquoi?
Parce que j'ai perdu mon costume l'année passée et je le recherche.
Bon, d'accord. Alors, vous n'êtes pas du genre à faire la fête à l'Halloween. Ici Hélène Denis qui vous souhaite un agréable moment en fin de semaine, quoi que vous fassiez. Et puis, moi, je vous donne rendez-vous lundi prochain. À bientôt!